voix nue. Toute cette semaine, de lundi à vendredi, Joël Gayot rencontre Mona Heftre. Ce soir, famille, je t'aime et je te quitte.
Bonsoir Mona Heftre. Je vous propose d'ouvrir ce soir le premier chapitre de votre vie. Une vie qui, sans être tapageuse, n'a pas vraiment eu quoi que ce soit d'ordinaire. Cette vie, elle s'est tramée entre le théâtre, le cirque, le musical, la chanson et même le striptease ou les photos de pin-up. Vous avez longtemps travaillé avec Jérôme Savary au sein du Grand Magic Circus. Vous avez chanté des textes de Serge Resvani. Vous avez aussi tourné pour le cinéma, notamment avec Paul Vecchiali. Mais surtout, surtout, Mona Heftre, vous avez toujours préféré la marge à la lumière, l'authenticité à la posture et la liberté à l'aliénation. Vous avez très jeune choisi de quitter votre province pour Paris et j'aimerais que nous commencions par ce choix premier fondateur de la rupture avec le milieu familial pour peut-être, vous allez nous en parler, inventer son existence ailleurs et autrement. Donc je vous propose de plonger dans votre enfance, Mona Heftre. Cette enfance, elle débute en 1952, année de votre naissance, en Gironde. Dans quel milieu avez-vous grandi? Quelle famille? Quel paysage? Quelles odeurs, quelles couleurs?
Alors j'étais élevée, je dis bien élevée, pas éduquée, hein. J'étais élevée dans une petite ville de province, en fait à la sortie de la ville, entre la rivière, la Dordogne et puis la Palud Condat, où il y avait des vignes, appellation Saint-Émilion. Et j'étais élevée dans une fratrie de 5 enfants. Mon père était jardinier. Il avait travaillé en arrivant dans cette région à tailler les vignes et puis très vite il s'est débrouillé pour se faire embaucher à la ville, comme on disait. À ce moment-là, il était fonctionnaire en quelque sorte puisque c'était un travail fixe avec un salaire fixe. Donc pour la famille, ça a été une promotion d'avoir un travail régulier. Et ma mère est une fille de l'assistance publique qui a eu beaucoup de mal à projeter une image maternelle sur nous. Donc elle était toujours dans ses rêves, dans ses songes un peu. On l'a croisée quelques fois quand on revenait de l'école. Elle revenait de se promener avec un bouquet de fleurs à la main, par exemple. Voilà. Elle était donc pas très très présente, très maternelle, mais on l'aimait énormément. Donc j'ai plutôt été élevée par ma grand-mère. Ma grand-mère était donc la mère de mon père. Mon père n'a jamais quitté sa mère. Mon père s'est marié avec ma mère et il a imposé sa mère à sa femme. Ma grand-mère était une femme qui avait une certaine classe, très adroite de ses mains, très maligne, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de secrets. Je sentais que c'était une femme qui avait souffert, mais on ne savait pas trop de sa vie, elle n'en parlait pas. Et puis elle était très drôle, on l'aimait énormément, ma mère aussi, on l'aimait beaucoup. Donc mon père était le chef de famille. Alors autant vous dire qu'on n'était pas très riche, hein, parce qu'un salaire de jardinier pour 8 puis 9 personnes, puisqu'à la fin on était 9 à table, ça faisait quand même beaucoup, beaucoup d'enfants à nourrir, beaucoup de bouches à nourrir. Mon père a travaillé toute sa vie avec ses mains. Ça a été un excellent jardinier. En dehors des jardins de la ville dont il s'occupait avec ses copains jardiniers, il avait des terrains qu'on lui prêtait, où il a fait venir tout le temps des légumes, des fruits. Il avait des poules. On a mangé pratiquement que les légumes du jardin de mon père. Et puis, pêcher. Il avait un carrelé au bord de la Dordogne et ça, il avait des pêches miraculeuses. Moi, j'adorais aller avec lui. Il allait à la chasse, donc on mangeait aussi son gibier. On peut dire que, voilà, on a vécu en tribu, un peu refermé sur nous-mêmes parce que ma mère étant orpheline, n'avait aucune famille, à part ses enfants, son mari. Mon père étant fils unique, n'avait pas de cousins, pas de neveux, personne. Donc on était vraiment une tribu, complètement refermée sur nous-mêmes.
Comment est-ce qu'on pousse, Mona Heftre, dans une fratrie de 5 enfants? Vous aviez quelle place dans la fratrie? Parce que c'est pas évident de se faire une place dans cet assemblage de frères et sœurs quand on est si nombreux.
Ouais. Aussi nombreux, il y a plus nombreux.
Il y a plus, mais c'est déjà pas mal.
Ouais. J'étais la deuxième fille, la deuxième. Et oui, c'est pas facile de se faire une place dans la fratrie, oui, c'est sûr, c'est certain. Surtout dans un tout petit espace, puisque la maison était minuscule. Mais bon, je crois qu'on avait tous des caractères très très différents. Moi, ma mère me dit encore aujourd'hui, toi tu étais la seule à partir avec ton père tout le temps. C'est vrai que je suivais mon père partout. J'aimais pas rester à la maison. J'avais pas d'endroit vraiment pour moi à la maison. Et donc j'étais tout le temps dehors. Chacun faisait un peu sa vie. On partait jamais en vacances, donc on jouait avec les gosses du quartier qui, eux, non plus n'allaient nulle part. Et donc on avait des bandes de potes dehors, comme ça. On était tout le temps dehors, en fait, on était rarement chez nous.
Pourquoi est-ce que vous dites, et vous avez insisté d'emblée, ils m'ont élevé, j'ai été élevé, pas éduqué. Elle est où la différence, Mona Heftre ? Ça veut dire quoi, ça ?
La différence, c'est que ils savaient pas ce que c'était que l'éducation. Mes parents eux-mêmes n'avaient pas été éduqués. Ils ont appris en regardant, comme moi, j'ai appris en regardant. J'ai appris la couture en regardant ma grand-mère coudre. Mon père, en faisant le jardin, m'a appris beaucoup de choses aussi. Parce qu'il m'a d'abord, il m'a appris à faire, par exemple, des greffes. Il m'a appris ce que c'était que de faire des greffes en écusson, greffer des arbres. Et puis je le voyais dans son jardin au rythme des saisons. J'ai vu comment une graine pouvait germer, puis pousser, puis donner une plante, qui elle-même donnait des graines, et puis des tas de légumes. Je pense que ça, c'est une forme d'éducation qui est un peu voilà passive, on va dire. Mais bon, ça rentre, finalement, ça rentre. C'est une forme de culture, finalement. Et quand je dis que je n'ai pas eu d'éducation, c'est que, voilà, chez moi, il n'y avait pas de livres. Non, absolument pas de livres. Je vous dis, on ne sortait jamais, on ne voyait jamais personne. Quand la télévision est arrivée chez nous en 62, mais ça a été une porte ouverte extraordinaire sur le monde. Il y avait une émission, je me souviens, qui s'appelait 5 colonnes à la une, qui était un magazine d'information, de société, de culture. Il y avait un générique du tonnerre, c'était Pierre Dumayet, Pierre Desgroppes et Igor Barrère. Il y en avait un troisième Pierre, je ne sais plus, je ne me souviens plus. C'était, mais quand on entendait le générique, on était tous là comme des mouches devant la télé. Et puis voilà, on a compris enfin ce qui se passait ailleurs. Et on a commencé, je pense, à être éduqués par la télévision.
Vous voulez dire que le monde est entré dans la
totalement.
Maison via la télévision,
via la télé, absolument. Et puis avec Claude Santelli, avec ses émissions sur la jeunesse, le théâtre et la jeunesse, la case de l'oncle Tom, l'Iliade et l'Odyssée. Il y avait des programmes formidables. Et puis après, plus tard, Discorama, Denise Glaser. Le petit conservatoire de Mireille. Donc là aussi, j'ai appris ce que c'était que la chanson. J'ai vu des chanteurs. Et je pense que sans la télévision, on serait resté vraiment au Moyen-Âge, quasiment, quoi.
Et il y avait l'école, quand même. Vous alliez à l'école dans le village, j'imagine.
J'allais à l'école dans le village.
Elle a compté cette part de l'école dans vos apprentissages ?
Non, absolument pas. Non, j'ai pas de très bons souvenirs de l'école.
Vous n'étiez pas une bonne élève ?
Non, j'étais pas une bonne élève. Ce que j'ai aimé dans l'école primaire, c'était le chemin pour aller à l'école. Ça, on avait un kilomètre et demi à faire quatre fois par jour. Ça faisait quand même de la marche pour des petites jambes. Et sur le chemin de l'école, je connaissais tous les fossés, là où il y avait des têtards, des grenouilles, des hannetons, les violettes, les noisettes. Voilà, ça c'était le plaisir que j'avais à aller à l'école, c'était d'aller sur les chemins qui menaient à l'école. Mais à l'école même, je sais pas, c'est peut-être parce qu'on vivait vraiment nous en tribu. J'avais qu'une envie, c'était de rentrer chez moi quand j'étais à l'école. Je me sentais pas bien, j'étais pas heureuse en communauté avec les autres enfants. Je pense que j'étais assez renfermée sur moi-même, un peu timide sûrement.
Il y a un côté chez vous un peu petite fadette, un peu à la George Sand, un peu herbe folle qui pousse comme ça au contact de la nature, un côté un peu sauvage de la petite Mona.
Oui, j'étais comme ça quand j'étais enfant, ça c'est certain, c'est sûr. J'étais tout à fait comme ça. Après, quand il a fallu aller en sixième au collège, j'étais extrêmement fière d'abord parce que ma sœur aînée n'était pas allée en sixième. Elle avait passé son certificat d'études et on l'avait mis tout de suite à prendre la sténodactylo pour être dactylo secrétaire, ce qu'elle a fait. Donc vie active quasiment. Et puis moi, j'avais pas envie de ça, j'allais en sixième. Donc j'étais très 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 fière. Donc là, j'avais un vélo et je suis sortie de ma cambrousse pour aller à la ville, au collège. Et là, au collège, j'ai découvert autre chose, évidemment, bien sûr. Au collège, ça aussi, ça a été une ouverture. J'ai appris l'anglais, j'ai même appris le latin. À partir de la quatrième, j'ai commencé un peu à décrocher parce qu'en fait, je faisais pas trop mes devoirs à la maison parce que c'était pas propice pour faire ses devoirs, c'était pas facile. J'avais pas de chambre, j'avais pas de bureau, il fallait se faire une place sur le coin de la table, donc voilà. Je faisais pas mes devoirs et puis je préférais être dehors avec mes copains, m'amuser, aller à la pêche avec mon père.
Et vous parliez avec votre père, avec votre mère
non.
qui était un peu rêveuse, dites-vous
non.
Avec votre grand-mère,
non.
vous aviez des conversations
Non, non.
C'était des gens un peu taiseux?
Complètement taiseux. Complètement taiseux. Mon père faisait des blagues, il était très très blagueur, il donnait des surnoms à tout le monde. Mais ma mère était bloquée dans son passé. Quoi. Et quant à ma grand-mère, elle nous racontait très peu de choses. Donc j'ai compris assez jeune qu'il y avait des drames. Mmh. Après j'ai su que c'était un enfant naturel, enfin des choses extrêmement compliquées. Mais il y a toute une partie de sa vie, de jeune femme puis de femme mariée, dont elle ne parlait jamais. Jamais, jamais. Ni un mot sur son mari, le père de mon père, jamais. Donc c'était des gens qui parlaient très 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 peu.
En même temps, les silences des parents ou des grands-parents avec lesquels on vit, ça peut être un terrain d'imaginaire incroyable pour l'enfant.
Certainement, évidemment.
Est-ce que ça l'a été pour vous ?
Bien sûr que ça l'a été, parce que je me suis posé plein de questions, évidemment. Déjà le fait que ma mère n'ait pas connu ses parents, qu'elle nous racontait en boucle comme elle avait été maltraitée par sa nourrice, elle est restée, même encore aujourd'hui à 80 ans, elle ne parle que de ça. C'est incroyable. Évidemment que ça, je me posais des questions sur la maternité, sur ce que c'était que vivre avec un homme, comment on pouvait vivre en couple, pourquoi les gens se séparaient, pourquoi ma grand-mère était seule, pourquoi elle ne parlait jamais de son mari, pourquoi mon père ne parlait jamais de son père non plus. Bon, il y avait plein de points d'interrogation, plein de mystères sur ce que c'était que de devenir un homme ou une femme, être adulte. Bon, j'avais pas de réponse, hein, évidemment. Donc, je pense que j'étais souvent en plein désarroi. Je me posais énormément de questions jusqu'à ce que je me mette à lire. Et alors là, j'ai compris beaucoup de choses quand même.
La lecture, donc, ça correspond à cette entrée au collège, cette découverte d'un autre univers et cette sortie de la maison.
Un peu après, quand même. Pas au collège. Ça veut dire, je vous dis, au collège, j'ai décroché. Vraiment, à partir de la quatrième, j'allais pas à l'école. Je faisais l'école buissonnière parce que ça faisait très très longtemps que je signais les mots d'absence, que je donnais jamais mes carnets de notes, mais personne ne me le demandait non plus. Moi, je faisais pas mes devoirs à la maison, personne ne me disait rien. Mes parents ne m'ont jamais dit qu'il fallait étudier pour se faire un avenir, je savais pas ça. Donc moi, j'étais une enfant très vive, très curieuse, j'étais tout le temps en train de m'amuser, ou dehors, en train de faire des choses avec mon père ou avec mes copains, faire des cabanes, des choses comme ça, mais les devoirs, je m'en fichais complètement, je savais pas que c'était important. Donc j'ai décroché sérieusement. Quand arrivé en troisième, sur mon bulletin, à la fin de l'année, j'ai vu comme ma sœur vie active.
Alors, orientation vie active. Ça voulait dire pas de lycée.
Pas de lycée, ça veut dire apprentissage. Alors là, ça a été un choc, mais terrible. Un réveil, mais alors. Moi qui étais quelqu'un de plutôt calme, plutôt discrète, j'étais pas très bonne élève. Je m'emmerdais à l'école, franchement, je m'emmerdais. Il y avait mon prof de français que j'aimais bien parce qu'il m'avait lu, il avait lu ma rédaction à la classe et bon, j'étais assez fière. Mais les autres matières, ça m'ennuyait. Je trouvais que les profs étaient, on ne comprenait pas ce qu'ils disaient. Ils avaient une mauvaise diction. Ils essayaient pas de se faire en comprendre des élèves. Vraiment, je m'emmerdais. Et donc, vie active, j'ai foncé dans le bureau du directeur et j'ai dit non. Je refuse. J'en ai même pas parlé à mes parents. Ils n'étaient même pas au courant, mes parents. Je ne veux pas. Je ne veux pas travailler. Il n'y a aucun métier qui m'intéresse. Rien ne m'intéresse. Je ne veux pas être apprentie, je veux aller au lycée, je veux passer mon bac, je veux faire des études. Alors, je pense que je devais être tellement déterminée que le directeur a dit « Bon, ben, on va vous faire passer des tests d'intelligence. » Que j'ai trouvé débile, mais vraiment débile, quoi.
Donc, vous avez passé haut la main.
Mais c'était nul, tests d'intelligence, c'était rien. Et puis, voilà, je suis partie au lycée. Lycée Branly à Libourne. Je passe devant, quand je veux voir ma mère, ça me fait toujours un petit quelque chose de passer devant. Ça n'a pas changé, il n'y a jamais eu de travaux, c'est toujours pareil.
Et est-ce que c'est au lycée donc, que vous rencontrez cette pionne qui va vous éveiller à la culture au sens large, Mona Heftre ?
C'est pas vraiment la pionne qui m'a éveillée à la culture. C'est qu'à partir de la seconde, je savais pourquoi j'étais au lycée. J'étais au lycée pour apprendre, pour passer mon bac. Donc tout m'intéressait. Je me suis intéressée énormément à toutes les matières. Et puis en plus, il y avait 68. C'était en 68 que j'étais en seconde au lycée. Donc, je regardais les élèves de terminale, c'était un lycée mixte. Les garçons qui sortaient des cours avec la clope au bec, qui rentraient, qui sortaient, quand le cours les intéressait pas, je trouvais que c'était formidable, il y avait une ambiance incroyable. Et puis, cette pionne du lycée, c'est vrai, était étudiante en histoire de l'art à Bordeaux. Elle m'aimait bien, je l'aimais bien aussi, elle m'a passé des bouquins, c'est vrai qu'elle était importante pour moi. J'ai commencé le théâtre en seconde avec mon prof d'espagnol, parce que j'étais excellente en espagnol, j'ai toujours adoré l'espagnol. Et avec lui, on a fait le club de théâtre du lycée. Donc je me suis énormément investie. Bon, je faisais toujours des rôles comme ça, un peu à la Jacqueline Maillan, parce que j'ai toujours adoré le burlesque et puis faire rigoler. Puis j'avais vu Folle Amanda au théâtre ce soir avec Jacqueline Maillan, je l'ai trouvé génial.
Je crois que vous avez... Il me semblait que vous aviez aussi joué Jeanne d'Arc, hein, à un moment donné, dans une caserne de pompiers.
Ah oui.
C'est une erreur ?
Non, pas du tout. Alors ça, c'est justement...
Parce que Jeanne d'Arc a fait le mandat,
c'est... Ah oui, ouais. Alors ça, c'est la surveillante du lycée, justement, qui était mon amie, qui m'avait fait travailler... sur un numéro de l'avant-scène du film de Dreyer, Jeanne d'Arc, et elle m'avait fait travailler des monologues que j'avais donnés à la salle des pompiers. Ouais, donc rien à voir effectivement avec Follamanda. Mais moi j'aime les deux. Hein. J'aime autant le théâtre classique, la belle littérature que voilà, le musical, le burlesque. J'ai toujours adoré ça, j'ai toujours adoré faire les deux.
Donc 68, vous le vivez en étant à l'intérieur de ce lycée, mais est-ce que vous êtes consciente à ce moment-là de ce qui est en train de se passer
On a la télé quand même.
Oui.
On a la télé, on voit De Gaulle, on voit tout. Quoi. Donc je suis ça évidemment avec beaucoup, beaucoup d'intérêt. Ça m'amuse, les manifs et tout ça. Mais bon, j'ai vu une manif sur le pont de Pierre-à-Libourne où il y avait 5 CRS avec 15 étudiants. Ça s'est arrêté là. Hein. Et puis 68, pour moi, ça a été... Si, j'ai travaillé dans une usine de champignons, je me souviens, une conserverie en 68, oui, à Libourne, pour gagner un peu de sous pendant les vacances. Et donc, on était avec une copine, travaille à la chaîne. Et ça a duré 3-4 jours, parce que la surveillante nous disait tout le temps d'arrêter de parler. On me parlait avec ma copine, mais doucement, on travaillait, on discutait. Et donc, je me suis levée, je me souviens, j'ai foncé dans le bureau du directeur et je lui ai dit « Vous êtes un salaud !» On n'a pas le droit d'interdire aux gens de parler comme ça s'ils font leur travail. Donc j'ai demandé mon argent et je suis partie.
Vous n'aviez pas froid aux yeux tout de même?
Pourtant, je ne faisais pas de vagues, hein, je vous promets. Mais il y a un moment donné où il fallait que ça déborde. Quoi. Voilà.
Est-ce que c'est au moment du lycée que vous avez pris conscience que peut-être votre place n'était plus dans cette famille, en tout cas plus géographiquement, plus physiquement, qu'il allait y avoir un moment où vous alliez partir?
Oui, bien sûr, évidemment. Mmh. Évidemment, très très tôt, je l'ai pensé. Même à l'adolescence, quand j'étais dans ma chambre, parce qu'après on a déménagé, quand j'avais 15 ans, on a quitté notre petite...
maison.
Toute petite maison, où on avait que deux pièces quand même pour neuf. Hein, c'était pas terrible. Donc, pour aller dans un HLM. Donc moi j'avais une chambre avec ma sœur, puis ma sœur après s'est mariée très jeune à 18 ans. Donc moi j'avais la chambre pour moi toute seule. Donc j'avais mon univers à moi, mes bouquins, mes disques. Donc voilà. J'avais une espèce de mélancolie qu'on a à l'adolescence, quoi, où on est un peu en introspection comme ça. Donc là, j'ai vraiment les écrivains m'ont aidé. J'ai compris que les écrivains pouvaient être des amis très intelligents. Donc j'ai lu plein de choses. J'ai lu les surréalistes, j'ai lu L'écume des jours de Vian, je me souviens, ça a été quelque chose. Et puis L'étranger de Camus, avec qui j'avais vraiment une grande fraternité. Camus est un écrivain que j'aime énormément, toujours aujourd'hui. Et donc, je savais déjà que, voilà, tout ce monde que j'étais en train de découvrir, ce monde, voilà, où il y avait de la poésie, de la littérature, de la musique, ce monde à moi, ce monde intérieur, quoi. Mes parents étaient totalement... ça leur disait rien. C'était même pas la peine de partager ça avec eux.
Donc, mais avec vos frères et sœurs, non ? Non plus ?
Pas tellement, parce qu'en fait, ma sœur aînée était partie, je vous dis. Et puis les autres étaient plus petits que moi. Donc voilà, ils étaient plus jeunes que moi. On communiquait pas beaucoup là-dessus. Je me souviens que mon frère, si, qui a un an et demi de moins que moi, lui, à la guitare, il s'entraînait à jouer Brassens dans sa chambre, je me souviens. Mais sinon, mes deux petites sœurs, non, elles étaient trop jeunes. Donc je partageais pas ça avec ma famille. Par contre, avec mes amis, oui. Mes copains du lycée, oui, bien sûr. Et puis j'écoutais Léo Ferré. C'était Amour Anarchie. Quand ce disque est sorti, ça a été pour moi... ça m'a emporté, quoi. Il y avait tout dedans, la noirceur, la sauvagerie, l'érotisme, la mélancolie, la tendresse. Et puis, il a chanté les poètes, Baudelaire, Verlaine, Apollinaire. J'ai connu la poésie grâce à Ferré. J'ai appris des poèmes, tous ces poèmes-là, grâce à Ferré. Aragon aussi, je les connaissais par cœur, mais sans la musique. Je les ai appris, ces poèmes, grâce à Ferré. Mais j'écoutais aussi autre chose. Hein. J'étais quand même une jeune fille de mon temps, donc j'écoutais aussi les anglo-saxons. J'écoutais Led Zeppelin, Zappa, Hendrix, Léo. Je me souviens, il y avait à Libourne, il y avait le fils du charcutier, qui était un peu bêta. Hein. Mais il avait une voiture et puis il avait du fric. Alors, quand il y avait un disque qui sortait, comme ça, il était le premier à l'acheter. Alors que je me souviens, quand Tommy Des Houx est sorti, il a acheté le vinyle, et puis il nous a amené en voiture dans la maison de campagne de ses parents. Et puis voilà, on a écouté religieusement. Et puis voilà, on le supportait parce que il avait une bagnole, il avait des sous. Mais bon, il n'était pas comme nous, lui. Il était, sa vie était toute tracée. Il était apprenti charcutier. Il allait reprendre la charcuterie de ses parents. Alors que mon avenir à moi, c'était inconnu. Donc, ça faisait toute la différence.
Il y a eu aussi Bordeaux, où vous vous êtes rendu et où vous avez découvert aussi des formes de théâtre particulières, puisque Bordeaux, à cette époque-là, à partir des années 65, même jusqu'aux années 90, ça a été le festival Sigma, qui était finalement pas loin d'être l'équivalent du festival de Nancy, qui lui se trouvait au nord de la France, c'est-à-dire un festival qui invitait des créateurs internationaux et brassait des formes de théâtre absolument incroyables. Vous avez connu des chocs là-bas, esthétiques, des révélations,
bien
la
sûr,
Eftre.
Bien sûr, c'est là que je suis allée la première fois au théâtre. J'étais jamais allée au théâtre avant. Je ne savais même pas ce que c'était qu'un spectacle en vrai. J'avais vu le théâtre à la télé, c'est tout. Mais à la télé, attendez, il n'y avait pas que au théâtre ce soir. Hein. Il y avait aussi des dramatiques de Stella Lorenzi, il y avait Cyrano de Bergerac, j'en ai vu quand même des grands classiques. Donc Bordeaux, oui, c'est encore une fois, c'est la surveillante du lycée qui m'a amenée à Bordeaux, parce qu'elle avait une chambre à Bordeaux. Donc avant de passer mon bac, j'habitais quasiment plus chez mes parents. J'habitais la plupart du temps à Bordeaux, avec elle ou chez des amis à elle ou des copains à moi avec qui voilà, j'avais créé des liens d'amitié. Là, on parlait musique, on parlait déjà culture, on parlait cinéma, ça brassait quand même pas mal. Chez moi, bon, j'y retournais de temps en temps pour me changer, mais c'est tout. Donc j'étais mineure, mais j'avais décroché de ma famille depuis très 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 longtemps. Et puis voilà, bon, le festival Sigma, ça a été évidemment formidable. Hein. J'ai vu Sun Ra, j'ai vu le Grand Magic Circus dans Robinson Crusoe. C'est la première fois que j'ai vu le circus.
Donc Jérôme Savary, que vous alliez recroiser plus tard, voilà. On en parlera après-demain soir.
Et alors, j'ai pas trop compris ce que ça voulait dire. Je fallait pas chercher de sens, certainement. Ça partait dans tous les sens. Je me souviens, il y avait un petit papoil qui passait au-dessus de ma tête, accroché à une liane. Il y avait un piano à jardin, un piano à cour. La scène était complètement éclatée. Et puis, il y avait ce type, là, avec sa gouaille, un peu comme ça, la Maurice Chevalier. Bon, je le trouvais pas terrible, franchement. Je trouvais surtout que le spectacle est très, 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 très bordélique. Mais je dois dire qu'ils avaient l'air de s'amuser comme des fous. Donc c'est quand même quelque chose.
Et c'est à Sigma aussi que vous rencontrez des écritures d'auteurs et d'auteurs contemporains, Mona Eftre.
C'est pas à Sigma, non, c'est dans les petits cafés-théâtres. À Bordeaux, il y avait un petit café-théâtre qui s'appelait l'Onyx, où on jouait Rabal, où on jouait Ionesco, donc le Beckett. Donc là, j'ai découvert effectivement ces écritures contemporaines. Ça m'a énormément plu, évidemment. C'était loin d'au théâtre ce soir. Là, je partais ailleurs sur une autre planète, là. Mais je savais déjà que ce métier m'attirait, je le sentais qu'il y avait tout ce que j'aimais dedans. Quand je dis le métier, c'est le spectacle en général. Hein. Je ne me sentais pas du tout une passion ou une vocation pour être une grande comédienne, pas du tout. Moi j'aimais tout en fait, j'aimais aussi bien la littérature, je vous dis la poésie, la musique, le chant, la danse. Voilà, je sentais qu'il fallait que je rentre dans ce milieu des artistes et que ce serait à Paris que ça se passerait et pas ailleurs. Je savais que c'était là parce que d'abord je voyais pas mal de choses à la télé, donc je savais qu'il y a beaucoup de choses qui se passaient à Paris. Et puis j'écoutais des disques, par exemple j'écoutais Higelin, Areski, Brigitte Fontaine. J'avais entendu qu'il faisait un spectacle qui s'appelait Maman j'ai peur, la vieille grille. Donc je me suis dit tiens, il faudrait que j'aille à la vieille grille, hein, par exemple. Vous voyez, je commençais déjà à fantasmer un peu sur ce que je pourrais faire à Paris quand j'y arriverais, parce que j'étais sûre de partir à Paris.
Est-ce que vous diriez, Mona Eftre, que c'est le jour où vous êtes allée voir le directeur du collège en lui disant je ne veux pas aller dans la vie active, j'ai 14 ans, je veux continuer mes études, que vous avez signé votre premier vrai acte d'indépendance?
Complètement. Tout à fait, absolument, vous avez tout à fait raison. Ça a été un réveil, je vous dis, voilà, je suis sortie de l'enfance à ce moment-là. J'ai compris qu'il fallait étudier, qu'il fallait travailler, qu'il fallait apprendre. Parce qu'être artiste, c'est ça aussi, c'est avoir une vision, un regard sur le monde, mais c'est aussi du travail pour le concrétiser. Donc oui, je crois à partir de ce jour-là, oui, ça a été un véritable éveil. Et puis après, ben, voilà, je me suis un peu laissée embarquer à droite à gauche parce que j'étais très aventurière. Et, Et puis, j'avais peur de rien, en fait. J'avais tout à gagner, on peut dire. J'avais pas été déformée par mes parents, surtout.
Mais ça s'est, justement, ça s'est accompagné, cette prise de conscience a pu s'accompagner d'une certaine colère aussi, contre vos parents, contre le silence de vos parents, contre cette absence de livres à la maison, qui était due au manque d'argent aussi, bien évidemment, mais vous avez pu éprouver contre eux une forme de rancœur, de colère.
Énorme. J'étais pas tendre du tout. J'avais beaucoup de ressentiments, vraiment. Depuis, je me suis calmée, bien sûr, j'ai compris maintenant. J'ai compris pourquoi mon père avait un problème avec l'alcool, pourquoi ma mère avait l'impression d'être si peu concernée par mon avenir. J'ai compris tout ça. Mais à l'époque, là, quand j'étais toute jeune, j'étais très violente, oui. Je comprenais pas comment on pouvait manquer d'ambition à ce point, comment on pouvait ne jamais sortir de chez soi, alors qu'ils avaient même pas de quoi se payer une bagnole. Je comprenais pas pourquoi ils s'intéressaient pas à grand chose. Et oui, j'étais en révolte. Je ne voulais rien. Rien d'eux. D'ailleurs, je suis partie sans rien leur demander. De toute façon, ils n'avaient rien à me donner. J'ai même refusé le nom que je portais, parce que Mona, c'est pas le prénom qu'ils m'avaient donné. J'ai tout refusé en bloc. Voilà, je voulais être moi, avec la vie telle que je l'envisageais. Voilà, avec ce monde intérieur que je m'étais fabriqué toute seule, et auquel ils étaient totalement étrangers. D'ailleurs, ils l'ont été jusqu'au bout, parce que quand j'ai joué au théâtre, ils sont même pas venus me voir.
Mais aujourd'hui, avec le recul, la sagesse, le temps qui a passé, est-ce que vous diriez que vous avez hérité quand même d'une flamme, de quelque chose qu'ils vous ont donné qui n'est pas dans le matériel mais dans l'immatériel, et que peut-être cette chose-là vous a permis de devenir Mona Eftre ?
Évidemment, vous pensez bien, évidemment. Maintenant, je les bénirais presque. Maintenant, je dis quelle chance j'ai eu d'avoir une enfance comme ça. Parce que finalement, j'avais une grande liberté, je faisais ce que je voulais. Je ne suis allée que vers ce que j'aimais, vers ce qui m'attirait. C'est vrai que j'aime toujours passionnément l'horticulture. J'ai même failli être horticultrice. J'aime toujours la terre. C'est pour ça que je fais aussi du modelage, parce que j'adore la terre. Voilà, j'aime les choses toutes simples de la vie, la campagne. J'adore ça. J'adore planter des arbres. J'adore tailler mes oliviers. Ça me vient de l'enfance, évidemment. Donc, c'est une grande richesse. J'ai pas été empêchée par mes parents. Mes parents m'ont pas mis sur un chemin en me poussant au cul, en me disant « vas-y, c'est ton chemin, ou alors c'est le nôtre, et puis tu vas le poursuivre ». J'ai vu autour de moi, après, dans le milieu artistique, comme on peut faire du mal à ses enfants sans le savoir, comme on peut...
En cherchant à les modeler ?
D'une part, en cherchant à les modeler, sans leur reconnaître leur caractère unique, et puis surtout, j'ai vu des enfants de parents intelligents, cultivés... éclairés, mais faire dans leur froc les soirs de première parce qu'ils avaient peur de ne pas être à la hauteur, par exemple. Ils avaient peur de décevoir leurs parents. Et j'ai vu des parents juger très sévèrement leurs enfants aussi, des artistes. Donc, mais aujourd'hui, évidemment, je suis revenue de cette rancœur que j'avais à l'adolescence. Mais je pense que c'était important parce qu'en fait, on devient quelqu'un en tuant ses parents. Donc, je l'ai fait d'une certaine manière. Je les ai vraiment niés, rejetés. Et puis je suis devenue quelqu'un, je suis devenue moi. Et maintenant à mon âge, évidemment, ma mère qui est toujours là, mais je l'aime très tendrement, je vais la voir le plus souvent possible, et mon père malheureusement n'est plus là. Mes frères et sœurs, on est extrêmement liés, très très proches. Donc voilà, tout est oublié.
Merci beaucoup, Mona Eftre, et à demain.
Merci.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Joël Gaillot avec Mona Eftre. À voix nue, réalisation Lionel Quentin, prise de son Alexandre Abergel, coordination Claire Poinsignon. À voix nue s'écoute en ligne et ce podcast sur franceculture.fr.